Et c'est l'heure du journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Ça vient de Bruxelles, ce sera très concret dans moins de 15 ans. Le pacte vert européen, annoncé aujourd'hui par la Commission pour rendre les carburants plus chers, taxer le carbone aux frontières, en finir avec les voitures à essence. Grande ambition, mais attention au retour de bâton, même les écolos redoutent une transition trop brutale. Détail dans un instant. Ne pas gâcher l'été des familles, les 12-17 ans vont finalement pouvoir passer des vacances sans passe sanitaire. Comme les salariés des commerces, le temps de se faire vacciner d'ici la fin août. Et avec le pass sanitaire, est-ce la fin du masque à l'intérieur? Théoriquement, oui, répond Olivier Véran, mais on attend de savoir comment l'épidémie évolue. Au pas sur les Champs-Élysées, le défilé du 14 juillet, ouvert par la nouvelle force européenne Takuba, engagée au Sahel, Barkhane étant appelée à disparaître l'an prochain, on en parle, Karine, avec votre invité dans 20 minutes.
Oui, Florence Parly, la ministre des Armées, comment vont nos soldats? Pourquoi la France a décidé de mettre un terme à l'opération Barkhane au Sahel, fin de mission officielle début 2022. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État hier dans son discours de Brienne. On attend vos questions, vos réactions, comme chaque matin sur France Inter au 01 45 24 7000. Rendez-vous à 8h20.
Dans ce journal aussi, Parcoursup plus efficace cette année. Les dernières propositions sont faites aux bacheliers aujourd'hui. Cannes et le festival à 3 jours de la Palme. On fera le point sur les primés potentiels. Et puis le Tour de France est l'une des étapes les plus difficiles du parcours aujourd'hui dans les Pyrénées.
France Inter.
Se chauffer, prendre sa voiture ou l'avion, faire construire sa maison, tout cela un jour coûtera plus cher parce qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la révolution verte que proposera aujourd'hui la Commission européenne pour être à la hauteur de l'enjeu climatique. Mais attention, cela ne sera pas sans conséquences pour les citoyens. On fait le point avec Angélique Bouin à Bruxelles.
La France le réclamait déjà sous Chirac. La Commission va proposer de taxer aux frontières de l'Europe l'acier, le ciment ou encore les engrais fabriqués dans des pays tiers où les usines polluent. Elle veut aussi totalement interdire les voitures à essence, diesel et même hybrides d'ici une quinzaine d'années et renforcer les taxes sur les transports maritimes et aériens. Enfin, le coût des droits à polluer va augmenter et ce marché européen du carbone pourrait, selon plusieurs sources, être étendu au secteur du bâtiment et des transports. En clair, l'essence pour rouler, le gaz et le fioul pour se chauffer coûteraient plus cher. ONG, les Verts européens et même le président de la Commission environnement au Parlement, Pascal Canfin, y sont hostiles. Ils redoutent en effet un effet gilet jaune à l'échelle de l'Europe.
Moi, je suis très favorable à un prix du carbone sur les entreprises. Pour les ménages, c'est très différent. Quand il n'y a pas d'alternative, que vous habitez à 20 km des centres-villes, il n'y a aucun transport en commun, pas de train, ça ne sert absolument à rien de penser qu'en payant votre essence plus cher, vous allez changer votre comportement.
Pascal Canfin demande à la Commission qui se réunit ce matin d'y renoncer. Il salue par ailleurs l'ambition des autres mesures, mesures qui feront l'objet de négociations qu'on annonce serrées entre États membres et eurodéputés. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et plus de moteurs thermiques en 2035, ça voudrait dire que les constructeurs ne vendraient plus que des voitures électriques. La France est partante, à une exception qu'elle entend bien négocier. Ce sont les hybrides rechargeables, ces véhicules mi-essence, mi-électrique, qu'elle ne veut pas voir disparaître. Alors que c'est un combat perdu d'avance, selon ce spécialiste automobile, Bernard Julien, joint par Maxime Deps.
Les hybrides rechargeables, selon tout ce que tout le monde constate, ça correspond à des véhicules qui sont plutôt au-dessus de 45 000 euros et pour lesquels on aide les ménages à l'achat. Donc tout ceci fait que politiquement, on voit bien à quoi ça sert pour les usines, on voit mal à quoi ça sert socialement, on voit mal à quoi ça sert pour l'environnement, quoi. On peut négocier les délais, si vous voulez, hein, mais moi je suis assez sceptique par rapport à la défense des hybrides rechargeables. Je pense que c'est une cause qui est perdue sur le plan européen et je pense qu'il faut mieux essayer d'épouser le cap environnemental pris par l'Europe plutôt que de tenter par tous les moyens de défendre le thermique sous une forme ou sous une autre.
Voilà, et l'État, par la voix d'Emmanuel Macron, a annoncé lundi un plan de relance de la filière auto, très inquiète, 8 milliards d'euros pour accompagner la transition.
Soulagement dans les familles.
Les 12-17 ans n'auront finalement pas besoin de passe sanitaire avant le 30 août. Délai annoncé par Olivier Véran hier soir pour ne pas gâcher les vacances. La même date a été retenue pour les salariés des commerces, de la restauration et tous ceux qui accueillent du public, sommés eux aussi de présenter un pass sanitaire sous peine de devoir fournir un test tous les deux jours. Ils auront donc jusqu'au 30 août pour se faire vacciner, en sachant que la vaccination sera désormais reconnue comme complète une semaine après la deuxième dose et non plus deux. Et puis attention, dans tous les commerces ou les transports, l'addition pourrait être salée pour ceux qui ne contrôlent pas les passes sanitaires. 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, c'est ce que prévoirait, selon les Échos, le projet de loi en préparation.
Et avec tout ça, pourra-t-on se passer du masque au cinéma et dans les centres commerciaux?
On peut se poser la question, puisque tous ceux qui les fréquenteront seront vaccinés, soit négatifs. Et la réponse est oui. A priori, pour Olivier Véran, c'est bien l'idée dès l'instauration du pass sanitaire, même s'il faut encore rester prudent.
Nous pourrons bientôt tomber le masque, c'est le principe du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est quoi? Ça vous permet de vous rassembler à 10, à 50, à 200, à 1000, dans un endroit extérieur ou intérieur, où toutes les personnes qui vous entourent, par définition, ou sont totalement protégées par le vaccin, ou disposent d'un test récent de moins de 48 heures négatif. On va juste vérifier que le variant Delta n'a pas fondamentalement changé la donne, mais à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes partis pour pouvoir lever l'obligation de port du masque dans les endroits où le pass sanitaire s'applique. Sous réserve de contre-consignes du Conseil scientifique et du Haut Conseil de santé publique, compte tenu de la dynamique épidémique actuellement dans notre pays, c'est là-dessus que nous sommes partis.
Olivier Véran sur France 2 hier soir. Pendant ce temps-là, les contaminations continuent d'augmenter, près de 7000 hier au niveau le plus haut depuis début juin. Un département de la métropole a décidé de réintroduire des restrictions, c'est la Haute-Corse, pour les secteurs de la Balagne et de Saint-Florent. Bars et restaurants fermés à partir de 23h aujourd'hui jusqu'au 1er août. Jauge limitée à 50% et interdiction des concerts en intérieur. En Martinique et à La Réunion, c'est carrément le retour du couvre-feu à 23h à La Réunion, dès 21h en Martinique, où la situation sanitaire est inquiétante, avec un taux d'incidence plus de 6 fois supérieur à la moyenne nationale et une vaccination encore très faible, Rémi Brancato.
Depuis une dizaine de jours, la reprise épidémique est nette en Martinique, palpable pour Johan Annette, médecin généraliste à Fort-de-France.
On est vraiment en fait dans le pic de l'épidémie. En un an et demi, c'est du jamais vu.
Le taux d'incidence dépasse 250 cas pour 100 000 habitants, plus de 6 fois la moyenne nationale. Et pour le médecin, la raison est simple, pas assez de vaccinés, 15% de la population seulement.
On a une vaccinophobie. Ce n'est pas forcément une volonté de ne pas se vacciner, mais c'est une peur du vaccin. Vous avez tous les moyens pour vous protéger au maximum, mais ce n'est pas fait. Il faut savoir qu'il y a des regroupements, il y a des soirées, des loisirs, et c'est là le problème. C'est dans ces moments de rencontre que les gens ne portent plus le masque.
Alors le retour du couvre-feu est un nouveau coup dur pour l'économie de l'île. Maddy Mérine, présidente du syndicat des restaurateurs et des traiteurs de Martinique, ne comprend pas.
Nous n'avions pas besoin de ce couvre-feu. Nous avons respecté les règles sanitaires, etc. On s'attendait à ce qu'il y ait les vacances et qu'on puisse pouvoir retrouver nos clients. On se retrouve à nouveau affermé à partir de 21h. C'est véritablement la catastrophe.
Juillet et août ne sont pas les mois les plus fréquentés en Martinique. Alors le comité du tourisme de l'île espère que cette période permettra de stabiliser la situation sanitaire pour la fin d'année et la saison haute.
Rémi Brancato à Paris, passe sanitaire de rigueur pour assister au feu d'artifice du 14 juillet ce soir à la Tour Eiffel et pour le défilé militaire sur les Champs-Élysées au moment où Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane au Sahel au premier trimestre de l'année prochaine. Mais tous les soldats français ne quitteront pas la zone. Ils vont continuer à aider les armées locales via la nouvelle force européenne Takuba, à l'honneur du défilé du 14 juillet, Nathalie Hernandez.
Elles sont 8 nations en tête pour représenter l'Europe qui lutte contre le terrorisme au Sahel. Aux côtés de la France, la Suède, l'Estonie, la Belgique, la République tchèque, les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie. Défiler arme à la main était un exercice inédit pour la plupart de ces soldats d'élite. Mais comme sur le terrain, ils se sont adaptés rapidement, explique le lieutenant-colonel François. Il a été le premier commandant de Takuba au Mali.
On a l'habitude de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au bout de 20 mètres, on était tous au pas et on formait tous un corps assez solide. Ils connaissent les Champs-Élysées, bien sûr. Ils connaissent aussi la portée symbolique du défilé à la française, qui est un défilé un peu unique en Europe. Bah, ils sont évidemment très contents. Et puis, je leur ai dit que c'était très bien. Ils m'ont demandé si c'était une blague. Et non, c'est pas une blague. Ils étaient tous très contents et nous aussi.
Pour l'officier supérieur, le bilan de la force au bout d'un an d'existence est déjà positif.
Les progrès, ils se voient typiquement dans la capacité des Maliens à être autonomes, dans leur volonté de combattre sur le terrain. Donc aujourd'hui, ils sont capables de mener des actions seuls, ce qui n'était pas le cas quand on est arrivé.
Alors, que la France va recentrer son dispositif au Sahel et faire rentrer la moitié des troupes de Barkhane. Takuba va, elle, encore monter en puissance. La Roumanie et le Danemark devraient bientôt rejoindre les 600 militaires de la force européenne.
Et aujourd'hui, 14 juillet, Nice commémorera l'attentat de la promenade des Anglais. 86 morts il y a 5 ans. Jean Castex participera aux cérémonies sur place. 4 agents iraniens arrêtés aux États-Unis. Ils s'apprêtaient à enlever une journaliste. Le renseignement américain leur est tombé dessus. La justice les a inculpés. Les 4 hommes prévoyaient de ramener de force la reporter en Iran, dont elle est originaire. Elle qui se bat contre le voile et dénonce les violations des droits de l'homme du régime de Téhéran.
Retour en France, ils ont déjà presque tous des propositions pour l'an prochain.
Et oui, les bacheliers inscrits sur Parcoursup recevront leur dernière proposition aujourd'hui. Ensuite, ils ont jusqu'à vendredi soir pour y répondre, en sachant qu'un peu moins d'un lycéen sur 10 cette année est toujours en attente d'une place dans l'enseignement supérieur, Sonia Princet.
Près de 92% des lycéens et même 95% des bacheliers généraux ont reçu au moins une proposition d'admission et sont en train de finaliser leur inscription dans l'enseignement supérieur. Un bilan meilleur que l'an dernier, comme le précise Jérôme Teillard, chef de projet de Parcoursup.
Là, on est à 9 sur 10 lycéens. On était à 8 sur 10 l'an dernier. Donc, ça veut dire que la plateforme, elle est allée plus vite cette année. Et toutes les catégories de lycéens ont eu plus de propositions. Et je pense que c'est un point important parce que ce sont évidemment les bacheliers généraux, ceux qui ont l'offre vers l'université, les écoles la plus importante, sans doute. Mais ce sont aussi les bacheliers technologiques dont on a fait une priorité cette année, qu'ils puissent accéder au nouveau bachelor universitaire de technologie dans les UIT, mais aussi les bacheliers professionnels, de manière à ce qu'ils accèdent au BTS. Le point qui est important aussi, peut-être, à souligner cette année, c'est l'offre en apprentissage.
Il reste en effet 6000 places en apprentissage et 5000 formations sous statut étudiant accessibles aux candidats qui sont toujours sans proposition. La phase complémentaire leur permet de continuer à formuler des vœux. Elle reste ouverte jusqu'au 16 septembre. Mais les vœux qu'ils n'ont pas obtenus dans la phase principale et sur lesquels ils étaient toujours en attente resteront archivés dans leur dossier même s'ils ne les voient plus à l'écran et peuvent encore se débloquer au cours de l'été.
Sonia Princet, elle devait desservir les sites des Jeux de 2024 entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Les lignes 16 et 17 du métro ne seront pas prêtes à temps, c'est confirmé. 2 ans de retard, annoncé hier par le Grand Paris. À Cannes, c'est bientôt la fin du festival, plus que 3 jours et c'est la palme. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Vous qui avez vu tous les films en compétition jusqu'à présent, dites-nous un peu lesquels vous ont frappé, vous ont mis une claque. Quel serait votre palmarès ?
Eh bien Florence, tout a commencé avec ça. Annette de Léos Carax avec une BO et un scénario signé des Sparks, le film d'ouverture formidable opéra rock sur le show business permet à Adam Driver de livrer une performance digne d'un prix d'interprétation. Autre sensation, Titane, projeté hier soir, Julia Ducournau qu'on vient d'entendre nous envoie à la figure ce film de genre sur le genre, ce film violent sur les violences faites aux femmes. Les festivaliers sont très impressionnés aussi par la fièvre de Petrov du russe Serebrennikov. Cet opposant à Poutine n'a pas le droit de quitter la Russie, mais son film, engagé autant sur la forme que sur le fond, parle pour lui. Alors au sein de cette sélection cannoise, on voit de jour en jour des tendances se dessiner. Il y a des films politiques, ça on a l'habitude à Cannes. Le genou d'aide de l'Israélien Nadav Lapid, qui porte un regard très sombre sur son pays. Ou bien la fracture de Catherine Corsini sur la crise des gilets jaunes et le délabrement de l'hôpital public. La bouleversante infirmière Aissatou Diallo Sania est totalement légitime pour le prix d'interprétation féminine. Et puis, autre tendance, Florence, de nombreux films féminins, voire féministes, mis en scène par des hommes. Voilà le tube de Désirless dans le joli film finlandais Compartiment numéro 6, voyage initiatique d'une jeune archéologue dans le Grand Nord. Il y a aussi la comédie romantique Julie du Norvégien Joachim Trier, Lingi du Tchadien Haroun sur l'avortement et l'excision. Et bien sûr, Benedetta, la puissante farce anticléricale de Paul Verhoeven avec la renversante Virginie Efira.
Alexis Demeyer et son palmarès en direct de Cannes en lice pour la Palme. Ce soir, le dernier Jacques Audiard Olympiade du nom du quartier asiatique de Paris dans le 13e arrondissement. Enfin, ce sera l'une des étapes les plus difficiles du Tour de France. Départ de Muret en Haute-Garonne et arrivée au col du Portet à 2200 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Voilà le programme pour aujourd'hui. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Ce que vous nous dites ce matin, Jérôme, c'est qu'en plaine ou en montagne, vous êtes frustré cette année parce que vous avez très peu accès aux coureurs.
Oui, alors on ne demande pas que les coureurs nous donnent du monsieur comme Bobet et Géminiani le faisaient avec Antoine Blondin, ou qu'ils nous reçoivent dans leur baignoire comme avec Pierre Chani, mais tout de même, pour la deuxième année de suite et en raison de la pandémie, les coureurs sont soi-disant enfermés dans une bulle. Interdiction désormais de les interroger devant leur bus à la cool, ils sont accompagnés par leur attaché de presse. À la demande, dans des zones dédiées où ils se tiennent à l'abri des barrières. Et il faut voir les journalistes agglutiner, se contorsionner leur micro au bout de leur perche pour entendre les malheureuses paroles énoncées 2 mètres devant eux. Et peu importe que vous croisiez ces mêmes coureurs quelques heures plus tard, dans l'ascenseur de l'hôtel ou au petit déjeuner. Car au fond, si les premières motivations étaient sanitaires, aujourd'hui, à de rares exceptions près, coureurs et organisateurs ne souhaitent pas revenir en arrière. Fini le café avec les champions au départ. Les moments de joie ou de colère saisis sur le vif devant un bus, place aux froides réactions diffusées sur les réseaux des heures plus tard. S'il est impossible de prendre le pouls des coureurs, de raconter les dizaines d'histoires qui courent le peloton, alors à quoi bon ? Pour un château sur le bord de la route, un temps de passage dans un col, le tour vaut beaucoup mieux que ça.
Bah écoutez, voilà, merci Jérôme Cadet. Quand le cyclisme se met à ressembler au football, vous allez suivre l'étape du jour, 178 km avec 3 cols au programme dans les Pyrénées. Le Slovène Tadej Pogačar étant toujours très 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 loin devant au classement avec 5 minutes d'avance sur ses rivaux.
Ça fait du bien un petit coup de gueule de temps en temps, non ?
Mais oui.
Allez, merci Florence Paracuelos, bonne journée, je vous dis bon 14 juillet.
Mais merci.
Allez, météo.
La météo. Avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie, pas de grande révolution dans le ciel, il pleut.
Oui, mis à part 2 zones qui font de la résistance, la Bretagne et la Côte d'Azur, nul n'échappera à la goutte froide qui peine à s'évacuer. On assiste donc à un défilé de perturbations avec une différence de traitement entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, un front toujours gris et humide, mais plus calme, qui laissera encore passer quelques gouttes, mais qui offrira quelques belles éclaircies de l'embouchure de la Garonne au Calvados. À l'Est, en revanche, ça se gâte, mis à part la côte méditerranéenne où le soleil rayonne, balayé par rafales de 60 à 80 km par heure. Le front orageux est assez offensif. Il oblige Météo France à placer 5 départements en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation. Les 4 départements de Lorraine et le Bas-Rhin. En résumé, il pluviotera sur les Champs-Élysées à Paris, tandis qu'il pleuvra plus franchement sur la Tour du Faudet en Alsace.
Et sous la pluie, les températures sont évidemment très fraîches.
Oui, elles observent une fraîcheur qui n'a rien d'estival. 18 à 23 degrés en général, 17 à Besançon, 19 à Colmar, 21 à Grenoble et Saint-Brieuc, 22 à Quimper et Paris, 23 à Chartres et Angoulême. Le mercure remonte les troupes dans le sud-est tout de même avec 24 à 28 degrés, 24 à Cahors, 28 à Marseille.
Merci Stéphanie Fromentin. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Karine.
La France appelle ses ressortissants à quitter l'Afghanistan.
Le communiqué de l'ambassade de France à Kaboul est sans ambiguïté sur la suite des événements. Il y aura un avion, un seul, pour évacuer la communauté française en Afghanistan en fin de semaine. En raison, précise le message, de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et compte tenu des perspectives à court terme. On aimerait croire que ce message s'adressait aussi au dernier traducteur afghan de l'armée française, tout aussi menacé. Cette évacuation, et la France n'est évidemment pas la seule à évacuer ses ressortissants, est le signe qu'il n'y a pas grand monde pour croire que l'armée nationale afghane sera de taille face aux talibans lorsque les derniers soldats américains seront partis. Les combattants islamistes sont passés à l'offensive et revendiquent le contrôle de 85% du territoire afghan. L'armée afghane s'est plusieurs fois rendue sans combattre et lorsqu'elle résiste, ça se termine mal. CNN a diffusé hier des images terribles tournées par un amateur le mois dernier. 22 soldats d'élite afghans qui se sont rendus une fois leurs munitions épuisées et qui ont été froidement abattus par les talibans. C'est un crime de guerre, mais les talibans ne s'encombrent pas des lois internationales.
Et la chute de Kaboul est inévitable ?
La semaine dernière, Joe Biden a assuré qu'il ne croyait pas à la chute du régime afghan et qu'il continuerait à soutenir son armée. Mais cette assurance n'est pas partagée par les services américains qui prédisent une victoire des talibans à court terme. Dans cette si prévisible défaite, pour reprendre le titre d'un livre du chercheur français Gilles Doron-Soreau, il y a plusieurs symboles révélateurs de notre époque. D'abord, c'est un nouvel échec d'une intervention militaire occidentale, après celui des Américains en Irak, et l'action de la France et du Royaume-Uni en Libye en 2011, qui a ouvert les portes de l'enfer. La réorganisation annoncée du dispositif français au Sahel montre la même difficulté à changer la donne avec les seuls moyens d'une armée quelle que soit son efficacité. L'ère de ses interventions longues et très politiques est sans doute vouée à s'arrêter.
Et quelle autre leçon en tirez-vous, Pierre ?
Le grand paradoxe de la débâcle afghane, Karine, c'est que tout le monde est inquiet de l'avancée des talibans. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Turcs, tout autant que les Occidentaux. Mmh. Tous ces pays qui sont à couteau tiré par ailleurs sont incapables aujourd'hui de s'entendre sur l'organisation d'une transition à bon ordre qui aurait préservé les intérêts de la population afghane sacrifiée, à commencer par les femmes auxquelles tant a été promis. Cet échec de ce qu'on ne peut plus guère appeler la communauté internationale en dit long sur l'ampleur des rivalités, même lorsqu'il pourrait y avoir un intérêt commun. La dernière leçon est celle que le reste du monde va sans doute tirer sur la fin de la domination occidentale exclusive. Joe Biden a voulu casser le cycle des guerres sans fin, mais il va lui falloir restaurer la crédibilité d'une Amérique qui a perdu en 20 ans de guerre en Afghanistan des milliers d'hommes, beaucoup d'argent et entamé son crédit de superpuissance. La suite appartient aux Afghans et elle s'annonce sombre.
Merci Pierre Aski. Florence Parly, l'invitée du Grand Entretien.